Il est 2h en temps universel, 4h à Paris. Merci d'écouter RFI.
Mathis Limano.
Et à la une, le sommet des BRICS au Brésil, la réunion des pays émergents qui se termine aujourd'hui. Hier, les États membres ont dressé leurs priorités, le retour du multilatéralisme dans les relations commerciales ou encore l'arrêt des combats dans la bande de Gaza. On est à Rio en début de journal. Un premier cycle de négociations sans résultat concret. Justement, les discussions indirectes entre le Hamas et Israël n'ont rien donné d'après des sources palestiniennes. Puis reportage à suivre en Syrie où les langues se délient chez les proches des disparus de la guerre civile. Enfin, attention, arnaque au visa canadien. Plusieurs citoyens d'Afrique francophone voulant obtenir le précieux sésame se sont fait arnaquer. Suite et fin aujourd'hui du sommet des BRICS à Rio, au Brésil. Réunion des pays émergents marquée par l'absence des présidents chinois et russes. Hier, dimanche, la journée s'est notamment soldée par des critiques contre les États-Unis et Israël. Martin Bernard, correspondant à Rio pour RFI.
Les BRICS ont condamné les attaques menées contre l'Iran, qui est récemment devenu membre du groupe des pays émergents. Ils ont également demandé qu'Israël retire ses troupes de la bande de Gaza. Tout en souhaitant l'instauration de la paix en Ukraine, la déclaration finale condamne la mort de civils dans plusieurs localités russes, sans mentionner toutefois les victimes de l'autre côté de la frontière. L'absence des présidents chinois et russes n'a guère entamé l'enthousiasme du président Lula, qui affirmait que les BRICS constituaient l'héritier du mouvement des non-alignés. Le protectionnisme des pays riches a également été condamné en des termes très forts. Il y a tout d'abord les droits de douane imposés par les États-Unis. Les BRICS ont exprimé leurs sérieuses préoccupations envers l'augmentation des mesures unilatérales qui faussent le commerce mondial et affaiblissent les pays pauvres. Mais l'Union européenne a également été critiquée en filigrane pour une forme de protectionnisme déguisé par des motifs environnementaux. Martin Bernard, Rio, RFI.
Évoqué à l'instant par notre correspondant, la guerre à Gaza, condamnée donc par les BRICS, délégations du Hamas et d'Israël sont à Doha, au Qatar, en vue d'un cessez-le-feu. Pas de résultat à l'issue du premier cycle de négociations, d'après des sources palestiniennes qui dénoncent le mandat insuffisant des négociateurs israéliens pour conclure un accord. Pendant ce temps, Benjamin Netanyahou s'est envolé pour Washington. Entretien prévu aujourd'hui à la Maison Blanche avec Donald Trump, le président américain pour qui il y a de bonnes chances qu'un accord de cessez-le-feu soit obtenu dans la semaine. Hier, 26 personnes ont été tuées à Gaza dans les bombardements israéliens. L'État hébreu qui a aussi frappé les Houthis du Yémen, le port d'Al-Odeida et d'autres points stratégiques des rebelles ont été visés d'après la chaîne de télévision des Houthis. 5h03 à Damas. Pour la première fois depuis la chute de Bachar el-Assad, des familles de disparus se sont réunies à l'appel de la future commission nationale d'enquête sur les centaines de milliers de Syriens disparus lors de la guerre civile. À cette occasion, des mères, des épouses de disparus ont pris la parole publiquement pour réclamer vérité, reconnaissance et justice. Reportage Mohamed Erami.
Autour d'une grande table ronde dans un restaurant du vieux Damas, les voix longtemps étouffées se libèrent. Une à une, les mères de disparus prennent le micro. Larmes aux yeux, elles racontent l'attente, les illusions, les extorsions. Certaines, pour la première fois. Cyrine, enseignante de Deresor, est l'une d'entre elles.
Moi, ça fait 12 ans que je cherche désespérément mon mari et mon fils disparus après qu'ils aient été arrêtés par les anciennes autorités. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune nouvelle d'eux et depuis la chute du régime, on n'a toujours pas de réponse.
D'autres femmes venues de la Ghouta racontent également des disparitions sous les anciennes autorités. Leurs enfants arrêtés à 15 ans, parfois simplement à cause d'un contact Facebook. La peur les a longtemps muselés. Lynn, 45 ans, raconte ce besoin de libération de la parole.
Moi, je suis au stade où j'éteins mon portable par réflexe, car j'ai l'impression qu'on va m'appeler à tout moment et m'arrêter. La peur que j'ai vécue sous les anciennes autorités, personne ne peut l'imaginer. Je suis traumatisée et j'ai l'impression qu'on va m'emprisonner à tout moment.
Le traumatisme est profond, mais aujourd'hui, ces femmes veulent des réponses, une reconnaissance officielle et des droits. Ces consultations marquent une première. Les victimes s'adressent publiquement à une autorité censée les représenter. Reste à voir si leurs voix seront réellement entendues. Mohamed Erami, Damas, RFI.
La disparition d'un jeune Français en Iran jugé inquiétante par Paris. Parti faire de la randonnée en vélo, Lennart Monterlos, 18 ans, n'a plus donné de nouvelles à ses proches depuis 3 semaines. Eux sont détenus depuis plus de 3 ans, Cécile Kohler et Jacques Paris. Ils encourent désormais la peine de mort après avoir été inculpés pour espionnage au profit d'Israël. Hier à Paris, leurs proches et soutiens étaient rassemblés pour réclamer leur libération. Au Texas, le temps est compté pour les secours. 10 enfants et leur moniteur de camp de vacances manquent toujours à l'appel après les inondations meurtrières qui ont touché l'état du sud des États-Unis. Le bilan humain revu à la hausse par les autorités, près de 80 morts et il va encore s'alourdir, préviennent-elles. Donald Trump prévoit lui de se rendre sur place vendredi prochain, soit une semaine après le drame. Attention, arnaque au visa canadien. Depuis 2 ans, Ottawa a ouvert ses frontières aux citoyens d'Afrique francophone et d'ici 2027, le pays compte accueillir près de 100 000 nouveaux résidents francophones. Une aubaine pour certaines personnes mal intentionnées qui en ont profité pour monter des arnaques bien ficelées et les victimes se multiplient. C'est le cas de Marie qui a souhaité garder l'anonymat. Paul Lorgerie revient sur son histoire.
Marie vit dans un pays d'Afrique francophone. Elle souhaitait changer de vie, s'envoler pour le Canada avec son mari et ses enfants. L'année dernière, une amie lui recommande la page Facebook d'une agence spécialisée. Les commentaires sous les posts sont dithyrambiques à l'endroit du consultant. Marie y voit une aubaine.
Du coup, je l'ai contacté et je lui ai soumis mon profil. Et il m'a dit qu'il était plutôt bon. Et donc, les choses ont commencé comme ça.
S'en suivent des échanges et des promesses. De résidence permanente pour Marie et sa famille, d'embauche pour elle. Le consultant promet que l'affaire sera réglée en 6 mois, à condition qu'elle paye.
En fait, il insistait sur la rapidité de l'envoi de l'argent, sur le fait que le gouvernement recherchait en fait des profils comme le mien et que plus vite je donnais de l'argent, plus vite je signais les différents documents et plus vite j'aurais pu avoir ma résidence permanente.
Marie n'y voit que du feu. Elle s'endette auprès d'amis. Des meubles de la maison sont vendus. En tout, elle a versé 15 000 dollars à l'arnaqueur. Des témoignages comme celui-ci, Nicolas Savramis, consultant certifié installé en Afrique du Sud, en a reçu 24 à lui seul depuis le début de l'année. Une donnée bien loin de la réalité, selon lui.
Les victimes sont embarrassées. Elles savent que la procédure est louche et elles réalisent qu'elles auraient pu faire quelque chose d'illégal. Donc pourquoi aller se plaindre ?
La double peine. Aujourd'hui, Marie n'ose plus aller porter plainte. Endettée, elle appelle à la prudence et ne perd pas espoir. Un jour, peut-être, sa famille et elle s'envoleront pour le Canada.
Paul Lorgerie, Service Afrique, DRFI. Tout autre chose à présent, le toilettage des animaux sauvages. Peut-il contribuer à lutter contre certaines maladies ? C'est en tout cas la conclusion d'une étude publiée sur le serveur BioArchive. Une étude qui s'est penchée sur le cas particulier des chauves-souris vampires, une espèce adepte du toilettage entre congénères. Après avoir administré un vaccin sur la fourrure de certaines chauves-souris, les chercheurs ont constaté une diffusion rapide du vaccin grâce au léchage. Les précisions d'Igor Strauss.
Les chauves-souris vampires provoquent en moyenne 450 épidémies de rage par an chez les bovins d'Amérique latine, ce qui coûte aux agriculteurs environ 50 millions de dollars. Et ce virus mortel peut tuer le bétail et les humains et être transmis aux porcs et aux chevaux. Avec l'augmentation des populations de chauves-souris et leur migration en raison du changement climatique, trouver un vaccin contre la rage devenait urgent. Mais comment vacciner des animaux sauvages ? C'est la prouesse des scientifiques qui ont contourné le problème en exploitant leur extraordinaire penchant pour le toilettage mutuelle. Une nuit au Mexique, ils ont capturé 24 chauves-souris d'une colonie qui en compte environ 120 et leur ont appliqué le vaccin sous forme de gel. 7 jours plus tard, 88% d'entre elles étaient vaccinées. Des résultats qui ont enthousiasmé les scientifiques, même s'ils estiment que cette vaccination orale devrait être testée dans le cadre d'essais à plus grande échelle. Les chercheurs affirment que cette stratégie pourrait également être utilisée chez d'autres espèces de chauves-souris porteuses de la rage, notamment aux États-Unis, où 90% des décès dû à la rage, résulte d'un contact humain-chauve-souris.
Les précisions d'Igor Strauss. La Norvège, première équipe qualifiée pour les quarts de finale à l'Euro féminin de football. Un temps bousculé, elles se sont imposées 2-1 contre la Finlande. La Suisse, pays hôte, se relance dans la compétition après un succès 2-0 sur l'Islande. 2 matchs aujourd'hui à l'Euro féminin. Les Espagnols, championnes du monde contre l'Allemagne à 16h, temps universel, puis à 18h TU, Portugal, Italie. En cyclisme, là, le départ départ fictif de la troisième étape du Tour de France sera donné à 13h10 heure française depuis Valenciennes. Les 184 coureurs s'élanceront. Le maillot jaune sera sur les épaules du Néerlandais Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé hier à Boulogne-sur-Mer. Et puis, la superstar de la NBA, Kevin Durant, portera le maillot des Houston Rockets la saison prochaine à 37 ans et après un passage plutôt raté à Phoenix. Kevin Durant rejoint donc une franchise de Houston en pleine progression. Elle a fini deuxième de la conférence Ouest la saison passée. L'arrivée du double champion de NBA fait partie d'un transfert record impliquant 7 équipes différentes. Merci d'écouter RFI. Il est 4h10 à Paris. Tout de suite, le club RFI.